dans la réponse que Jésus leur donne, on a le sentiment que Jésus il est un peu dur avec eux. Après tout, ce sont eux des pêcheurs, ils sont expérimentés sur la mer. Ils sont en train de faire face à une situation qui vraisemblablement pourrait mener à la mort. Et là, Jésus dort et c'est eux qui se font reprendre. Comment expliquer ce qui se passe ? Quand il commente ce récit, l'auteur mentionne une certaine Elizabeth Elliot qui a expérimenté la mort tragique de son mari. Et elle écrit la chose suivante. Dieu est Dieu. Et puisqu'il est Dieu, il est digne de mon adoration et de mon service. Je trouverai du repos nulle part ailleurs que dans sa volonté. Et sa volonté est nécessairement, infiniment, incommensurablement, ineffablement, au-delà de toutes mes notions les plus grandes de ce qu'il est capable de faire. Et l'auteur introduit cette citation en disant que si nous avons un Dieu suffisamment grand pour qu'on s'en prenne à lui, pour qu'on lui dise « mais il fallait faire quelque chose », si on a un Dieu suffisamment grand pour s'en prendre à lui, on doit avoir en même temps un Dieu suffisamment grand pour qu'il ait des raisons qui nous échappent, quelque chose qui nous dépasse, que nous n'arrivons pas à comprendre là, sur le moment. Et de la même manière pour les disciples dans la barque, il y a des raisons qui leur échappaient sur le moment, mais un aboutissement qui rend évident que ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable, la tempête est calmée, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable qu'ils sont passés par là. Non, il est bel et bien capable et ce n'est pas un manque d'amour non plus. Sa volonté, elle peut nous échapper et on peut avoir de la peine à comprendre ce qui se passe quand le mal est présent, dans telle ou telle souffrance, mais Jésus affirme par cette parabole que c'est pour le bien de ses disciples, de ceux qui croient en lui. Ce que nous venons de dire nous mène tout naturellement à la deuxième question. Est-ce que la moisson est contrariée ? Lorsque les esclaves viennent vers le maître, ils posent la question « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Et la réponse du maître est la suivante « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Avec l'explication, on réalise que la question du sort éternel de ceux qui se seront opposés au royaume est là, dans ces paroles. Selon l'explication de Jésus, il s'agit de ceux qui auront été des causes de chute et ceux qui auront fait le mal. Avec la description qui est faite ici, on réalise qu'il s'agit d'un jugement éternel. Ce jugement du Fils de l'homme, il est décrit en termes de feu dans cette histoire, et dans l'explication en termes de fournaise ardente. Dit ensuite, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quant à ces expressions, est-ce qu'il faut les prendre littéralement ? Probablement pas, mais ce serait totalement irresponsable de considérer qu'elle ne renvoie pas à une réalité peut-être même beaucoup plus forte encore, probablement beaucoup plus forte encore. Ces expressions disent la souffrance, conséquence d'une vie qui consiste à s'opposer à Dieu, à son règne. Et compte tenu de ce qu'il dit ailleurs, dans l'Apocalypse par exemple, on peut considérer que la condition et la souffrance qui est expérimentée là, c'est un peu comme un cercle vicieux fait de révolte et de remords, de révolte, de remords, de révolte, de remords à nouveau. Et à l'inverse, ceux qui ont reçu comme un cadeau cette parole et qui ont cru brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Si vous avez bien compris ce texte, quelle résonance est-ce qu'il a ? Pour nous aujourd'hui, nos contemporains. Je vois deux tendances. Soit l'enfer est pris à la rigolade, on plaisante, on utilise l'expression, Et ça peut paradoxalement même devenir quelque chose de positif avec une soirée d'enfer. C'est même vu positivement. Mais c'est à côté de ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Ou alors l'enfer, et ça on le rencontre aussi, c'est une offense frontale à la raison humaine. Comment un Dieu d'amour pourrait-il se permettre d'envoyer des gens en enfer? La manière dont Jésus parle nous invite à peser ce qui est dit. On ne peut pas lire ces versets sans s'arrêter sur leur gravité. Comment est-ce que on peut comprendre ce que Jésus dit ici? Est-ce que c'est parce qu'il attend avec sadisme le moment où il va finalement pouvoir jouir de cette condamnation à l'enfer, tous ceux qui n'auront pas cru en lui? En pensant à ce bien qui a été décrit plus tôt, il peut être utile de voir quelles raisons sont données ailleurs dans les Écritures pour le délai. Écoutez par exemple ce que l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens qui vivaient sous une persécution, donc qui subissaient le mal, persécution forte au premier siècle. Et il leur disait ceci: « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. » Ce n'est pas par sadisme que Jésus attend le moment du jugement. Ça ne peut pas être ça. Il veut au contraire que cette attente soit l'occasion pour chacun de changer radicalement, de réaliser la gravité de ce qui est fait, de s'en détourner. Et si c'était par amour qu'il parlait, si c'était par amour qu'il donnait cette parabole, c'est précisément par amour qu'il veut dire la gravité de la situation. Et paradoxalement, cette attente, elle est salvatrice. Elle nous sauve. Si on pensait à personnes présentes ici ce soir, combien d'entre nous ont vécu ce changement radical il y a 30 ans? Combien d'entre nous ont vécu ce changement radical il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, dans l'année écoulée? En vue de notre bien, c'est dans sa grâce et dans sa patience qu'il faut trouver la raison de ce délai. Pas par sadisme. C'est dans sa grâce et sa patience que Jésus parle encore et encore du jugement. Il en parle encore et encore dans le but d'avertir. On aime à penser qu'un Dieu d'amour devrait s'abstenir d'un jugement, pardonner tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il dit? Et ce qu'il dit ici et ce qu'il dit ailleurs, je vais lire une parole dans le chapitre 5 de Matthieu. Est-ce que c'est vraiment par manque d'amour? Écoutez ce qu'il dit au chapitre 5. « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Ça ne peut pas être par un manque d'amour. Qu'est-ce qui va permettre à quelqu'un de reconnaître la gravité de la situation? De reconnaître la gravité de ce qu'il fait. Qu'est-ce qui va permettre à une victime, d'aimer le coupable, de vouloir son bien, de prier pour lui? Est-ce que c'est l'absence d'un jugement ou est-ce que c'est précisément la certitude de ce jugement? Et au-delà de ces paroles que Jésus a prononcées, il y a ce qu'il a vécu. Ce qui va venir dans cet évangile de Matthieu. La plus grande preuve de grâce et de patience, c'est le fait qu'il est lui-même prêt à vivre ce jugement, expérimenter cet enfer à la croix, cette aliénation de Dieu, cette condamnation, il est prêt à l'encaisser à la croix. Et quand il parle dans notre parabole des justes, il ne s'agit pas de personnes qui sont justes parce qu'elles seraient justes par elles-mêmes. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour des personnes injustes comme nous. s'il est mort, c'est précisément pour nous éviter ce jugement éternel. Jésus n'est pas dépassé par le mal qui est présent côte à côte avec son royaume. En vue du bien, il use de patience avant de juger. Je vous invite à prier.